Bonjour, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le rabbin Pauline Beb qui nous a fait la joie d'accepter de faire la prédication. Chers frères et sœurs, nous voulons dire à chacune et chacun en cette heure ce message du pasteur Charles Wagner. Qui que tu sois, frère, sœur, passant, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Je vous propose de commencer ce culte. Alors, je vous explique un tout petit peu, parce qu'on n'a pas eu la place pour tout afficher. Comme vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas besoin du petit recueil bleu. Nous allons décliner, vous avez l'habitude maintenant, nous allons décliner d'abord en deux fois le psaume 97, puis nous déclinerons en trois fois le psaume 91, et après, les couplets sont affichés. Donc, je vous le dirai à chaque fois. Donc, je vous propose donc de commencer par chanter les strophes 1 et 2 du psaume 97 et je vous invite à vous lever. Et nous restons debout pour louer le Seigneur. Ô Dieu créateur du monde, ouvre nos yeux à sa beauté, ouvre nos esprits à l'émerveillement, ouvre nos oreilles aux autres, ouvre nos cœurs à toi. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et chacun: la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous propose de prendre les deux strophes suivantes. Je vous propose ce matin pour entendre la volonté de Dieu. Donc ensuite, je vous le dis tout de suite, donc nous allons décliner le psaume 91, vous pouvez le préparer, et je vous dirai les strophes au fur et à mesure. On chantera d'abord la première, ensuite les 2 et 3, et ensuite les 4 et 5. Donc pour entendre la volonté de Dieu aujourd'hui, je vous propose des extraits du chapitre 30 du Deutéronome. Lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi, si parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura banni, tu réfléchis, si tu reviens au Seigneur ton Dieu et si tu l'écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je te l'ordonne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation. Il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore d'entre tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais banni aux extrémités du ciel, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là. Il te prendra de là. Le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays dont tes pères avaient pris possession, et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ?» Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Nous prenons donc la première strophe du psaume 91. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Seigneur, nous te présentons nos vies. Nous essayons de les vivre le mieux possible, dans la clarté, mais nous n'y parvenons pas toujours. Quelquefois, même en voulant bien faire, nous faisons le contraire. Et souvent, nous oublions de te faire confiance, de faire confiance à nos frères et sœurs. Nous oublions de te confier nos choix et nos gestes. Nous essayons de ne pas céder à la rancune, à la colère. Dans les situations critiques, individuelles ou collectives auxquelles nous sommes confrontés, y compris dans notre pays, mais là non plus, nous n'en sommes pas toujours capables. Nous qui appelons nos frères et sœurs à plus de fraternité et d'accueil, pour nous-mêmes, trop souvent, la peur et la méfiance prennent le dessus. Mais fais toi-même le tri en nous, Seigneur, et dans notre vie, dans chacune de nos vies, qui nous paraissent si souvent incertaines, tu sauras retrouver les pépites que tu nous as toi-même données et tu sauras les garder. Tu sauras écarter et pardonner tout ce qui est boueux et qui n'aurait pas dû être. Tu nous ouvriras les yeux et les oreilles, le cœur, pour que nous puissions reconnaître ton visage en celui de chacun de nos frères, de chacune de nos sœurs, pour continuer de voir la beauté du monde et de nos vies, et pour accepter de recevoir tout ce que tu nous offres. Amen. 2 et 3. Et je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Et ensuite, nous chanterons les deux dernières strophes. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Et aujourd'hui encore, il vient pour nous libérer de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et de nos culpabilités. Que ce pardon nous fasse vivre, qu'il soit notre force et notre joie pour vivre et aimer à notre tour. Amen. Et je vous invite à rester debout pour confesser notre foi. Je vais le faire avec une confession de foi que vous avez déjà entendue d'après un texte du pasteur André Gounel qui se trouve, pour ceux qui souhaitent suivre sur le texte, dans le recueil de Cantiques. Je crois en Dieu, celui que nous ne pouvons ni comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Je crois en Dieu, celui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie, cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. La plupart d'entre nous croyons que nous le rencontrons surtout en Jésus, le Christ, celui qui s'est abaissé, donné, approché pour nous parler, nous accompagner et nous transformer. Je crois en Dieu, dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par le don de l'Esprit, esprit de paix, soif de justice, goût du service, compassion pour le prochain, qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Et nous prenons le cantique 257, nous ne chanterons que les deux premières strophes. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Éternel notre Dieu, permets à tous ceux et celles qui parlent et à celles et ceux qui écoutent, d'entendre aujourd'hui encore, dans le témoignage des Écritures, la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans cette recherche ardente que nous appelons la foi. Amen.
Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 1, les versets 15 à 21. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Chifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi ? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants ? » Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Le peuple se multiplia et devint très fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille.
Alors, je vous invite à lire le psaume 118. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël le dise, sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron le dise, sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent, sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des humains? L'Éternel est mon secours. Mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les humains. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les puissants. Toutes les nations m'entouraient au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. Elles m'entouraient, elles étaient toutes autour de moi, au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel déploie sa force. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, par elles j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit notre allégresse et notre joie, Éternel accorde le salut, Éternel accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Depuis la maison de l'Éternel, nous vous bénissons. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel car il est bon et car sa fidélité dure à toujours.
Et au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, je vais lire les versets 4 à 10. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellée et je ne me suis pas dérobée. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détournée des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secourue. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurais pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté, qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Je vous propose de prendre le cantique 151 et on peut se lever pour le chanter.
Bonjour, je suis très impressionnée de parler d'en haut, mais j'honore la coutume du lieu, comme on dit chez nous, et je voudrais dire combien je suis émue et reconnaissante de votre invitation, de l'invitation de votre pasteur et vous-même, et votre accueil très chaleureux et souriant chaque fois que je viens ici. C'est entouré de la végétation de Gaillac qui parle l'occitan, dont les pierres rouges et rosées mordues par le soleil portent la robe qui coule des vignes voisines, que j'assistais cet été à un atelier de théâtre. L'animateur, qui avait eu le courage d'écrire une pièce pour les acteurs en herbe de Mahanetser, la colonie de vacances juive libérale, faisait face à un feu de questions qui prenait presque l'accoutrement d'interjections. Pourquoi avez-vous coupé cette scène? On ne comprend pas la suite. Vous auriez dû écrire cela. Peut-on commencer par autre chose? Patiemment, il répondait à ces questions une par une, posées par ces petites personnes, hautes comme trois pommes, qui, sûres de leur fait, animées par la flamme d'une passion trépidante, ne souffraient d'aucun atermoiement. Déjà, elles avaient le toupet de remettre en cause systématiquement le cadre et le contenu de son enseignement. Je me disais, c'est une colonie juive, tout ordre est contesté, rien de plus normal. Je me demandais alors ce qui faisait que depuis le plus jeune âge, le principe d'autorité était remis en question. Était-ce une question de génération? Sans doute un peu. Mais ce toupet, cette impudence, était bien présent dans le lait donné aux nouveau-nés de notre tradition. Il constituait le tissu originel du judaïsme et pouvait être résumé dans ce mot hébraïque intraduisible, donc propre à la pensée juive, le mot de chutzpah, toupet. Sous le soleil israélien ardent, le mot peut être entendu dans l'expression « eze chutzpah », prononcée avec dédain, « quel chutzpah ». Signifiant que quelqu'un a vraiment dépassé les bornes dans le recours à cette chutzpah, c'est-à-dire a été plus chutzpahique que les autres, ce qui en termes de degré pour un regard extérieur est particulièrement difficile à définir. Néanmoins, cela nous montre que la chutzpah, ce toupet, a ses règles, ses autorisations et ses interdits, tout en étant précisément aux marges de la loi. Alors comment la définir ? A-t-elle des limites et pourquoi est-elle spécifique à notre tradition juive? Essayons dans un premier temps de définir ce mot « chutzpah ». Léon Rosten, dans « Les joies du yiddish », la présente ainsi. La qualité inhérente à un individu qui, après avoir tué père et mère, demande la compassion du tribunal parce qu'il est devenu orphelin. Mais plus sérieusement, la qualité de chutzpah semble être évoquée pour la première fois dans le Talmud de Jérusalem à propos de la terre d'Israël qui, malgré la dévastation, reste fertile, une forme de résilience de la terre qui relève la tête dans l'adversité, qui, malgré l'aridité, continue de produire comme une petite fleur pointant sa corolle hors de la terre du désert craquelée par la sécheresse. Celle qui a eu la force de s'affirmer, défiant tous les éléments contraignants. Voilà ce qu'est la chutzpah. Lorsque tout le monde disait que c'était impossible, la petite fleur, délicate, a la chutzpah d'être et d'exister, là où tous les experts interrogés s'accordaient pour crier l'impossibilité. Elle a soufflé son âme, fait pousser dignement sa tige et dit « Je suis là, au nez et aux yeux de tous les détracteurs ». Une contradiction solitaire et insolente qui défie les préjugés, les « ça ne marchera pas », têtu et obstiné, bravant la fatalité, affirmant sa fierté d'être. Puis le mot est utilisé dans le Talmud, le commentaire de la Torah, dans cette expression emblématique « chutzpah afilu klapei shmaya », je traduis, c'est de l'araméen, c'est-à-dire une chutzpah, une effronterie, une audace, une impudence, même à l'écart des cieux du divin. Elle désigne des personnes qui sont prêtes à défier toute forme d'autorité, au nom de la vie, de la justice, de la dignité des êtres humains, y compris l'autorité suprême. Si le mot lui-même n'est pas employé dans le contexte biblique, nombreux sont les exemples de comportements inspirés par la chutzpah dans la Torah. La Bible est imprégnée de chutzpah, sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose en l'ignorant. J'en prendrai trois exemples. D'abord le jardin d'Éden, lieu de la création, ensuite la sortie d'Égypte, ou la liberté, puis enfin la Akeda, cette ligature d'Isaac, telle qu'elle est lue par le Midrash commentaire rabbinique, comme une anti-soumission. Éden, le premier lieu, le berceau de l'humanité, tel qu'il nous est décrit dans la Torah, dans la Genèse, s'oppose et se démarque radicalement du mythe mésopotamien de la création, Enuma Elish, datant de 2 millénaires avant notre ère, constituant sans doute le contexte de l'écriture de la Genèse. En effet, l'être humain dans le récit de la Genèse est le couronnement de la création. Il n'est pas le serviteur civil des dieux, frêle embarcation, subissant les sauts d'humeur intempestifs des divinités babyloniennes, jouet passif entre leurs mains. Il est au contraire, dans la Genèse, le partenaire de la création aux côtés de Dieu. On pourrait dire déjà « Eze chutzpa, quel toupet ». Mais encore davantage, comme le disent les maximes des pères au nom de Rabbi Akiva, non seulement Dieu a créé l'être humain à son image, « Betselem Elohim », mais en plus, il lui a fait le cadeau de lui dire qu'il avait été créé à son image. L'interprétation du mot rabbinique, du mot « laasot » pour « faire », à la fin des quelques versets de la Genèse nous expliquant que Dieu a arrêté son œuvre de création pour instaurer le Shabbat, est encore plus audacieuse. Dieu s'est arrêté de créer pour que les êtres humains poursuivent son œuvre. Nous voilà donc non plus des créatures soumises et terrorisées par la peur des caprices des dieux, comme dans le mythe mésopotamien, mais promus au rang prestigieux de partenaires, shutafim, dans la création, marchant, Betzel Elohim, dans l'ombre de Dieu. Et Dieu, immédiatement après avoir créé le monde, crée le Shabbat, la possibilité, non plutôt l'imposition du retrait. Une fois par semaine, toutes les hiérarchies sont abolies, plus de maîtres, plus de serviteurs, tous sont libres, même Dieu, d'humer la vie, de la sanctifier. Tous les rapports de subordination sont effacés, le temps d'un jour, un jour de délices. Et Dieu se soumet à sa propre loi. Aucun législateur ne peut y échapper. Dieu montre l'exemple et prend notre main pour se promener dans l'univers d'une création en devenir. Main dans la main, pour ainsi dire, il contemple l'œuvre commune. L'idéal de la toute-puissance est non pas d'occuper le terrain et de soumettre l'autre, mais au contraire de lui laisser un coin de makom, de place, partager son lieu ou sa part de divinité, laisser à l'autre la place de s'épanouir au meilleur de lui-même. Imaginez ce modèle pour tout dirigeant de n'importe quelle entreprise humaine, État, société, communauté, paroisse. Le jeu, pour être divin, doit laisser la place à l'autre. « Après vous », disait Emmanuel Lévinas, est une formule qui résume le plus haut degré de l'éthique de l'humanité. Et lorsque c'est Dieu qui dit à l'être humain « Après vous », cela laisse une place non négligeable à la chutzpa, au toupet humain. Le texte de la Genèse s'affirme comme une évidence. Et dans son hypothèse de départ de ce tissage humain-divin, désormais de la création, il est déjà impudent. Mais sa lecture et son interprétation, dans la même veine, peuvent être impudentes aussi. La tradition orale, emboîtant le pas à la tradition écrite, la suivant dans son audace. Reprenons en effet le texte. Adam, représentant l'essence humaine, est placé au milieu du jardin. Dieu lui dit qu'il a le droit de se nourrir de tous les arbres du jardin, sauf d'un. Vous connaissez la suite. Ce qui est étonnant, ce sont les lectures qu'en ont faites les différentes religions pour justifier un comportement souhaité. Chez certains, le péché originel, la faute, a eu pour conséquence une condamnation rédhibitoire pour l'humanité et dont l'humanité ne peut s'absoudre sans intervention surhumaine. À l'inverse, cette même faute, souvent d'ailleurs minimisée par l'appellation « faux pas », est lue dans notre tradition juive comme un glissement nécessaire, une désobéissance salutaire. Adam a désobéi à Dieu, Ève aussi, et le serpent, même pas grave, dit la tradition juive, prenant sans embâge le contre-pied du texte biblique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait bien que l'être humain en mange, sinon il n'aurait pas été responsable. Ce qui fait d'Adam un être pleinement humain, c'est précisément sa capacité à désobéir. Comme l'explique Frédéric Gros dans son livre « Désobéir », celui qui obéit par excellence, c'est l'esclave. Être soumis, c'est être prisonnier d'un rapport de force qui subjugue, fait plier, aliène au sens propre. Soumis, je suis sous l'entière dépendance de l'autre qui commande, décide, hurle des ordres, brise les reins et les volontés. Et voilà précisément ce que la Torah veut abolir, la dépendance totale. Le principe de désobéissance rend la liberté de choix possible, le libre arbitre sans lequel Adam ne peut être responsable de ses actes. Et voici ce qui nous fait voyager de l'Éden à la sortie d'Égypte, de la Genèse à l'Exode. Dieu se présente encore et toujours comme un Dieu libérateur, d'abord en ayant institué le Shabbat, fête de la liberté, mais aussi comme libérateur d'Égypte, véritable leitmotiv de la tradition, qui dit sans arrêt, qui t'a fait sortir littéralement de Mitzrayim, Tsar, Étroit, la terre d'étroitesse, toi précisément, et le « je » ne peut se noyer dans un « nous » collectif qui abolirait toute responsabilité individuelle. Dieu est un principe libérateur qui libère les gorges serrées d'une soumission aveugle à l'autorité et qui permet à l'être humain de déployer ses ailes et d'accéder à la connaissance, l'arbre de la connaissance. Parce qu'il est plus important d'y accéder que d'obéir à un pouvoir divin. Edmond Fleck clamait « Je suis juif parce que la foi d'Israël n'exige de mon esprit aucune abdication ». Le Dieu de la Genèse donne l'immense capacité à l'être humain d'être responsable de ses actes en ce qu'il peut accéder à la connaissance. Ainsi, il est presque comme nous, dit le texte, connaissant le bien et le mal. Dieu en est fier comme tout parent qui voit ses enfants grandir ou tout professeur qui voit son élève prendre des décisions autonomes. Dieu ne veut pas tout contrôler, le retrait signifie cela, le partage de la capacité créatrice, de la perfection du monde et de la connaissance. L'accession au savoir est la clé de partage du pouvoir. On sait que dans les sociétés tyranniques, on tient dans l'ignorance la plupart des administrés pour asseoir un pouvoir. La quête de la connaissance commence au Jardin d'Éden, dans la désobéissance, elle aussi, et se poursuit hors d'Égypte. Chercher la connaissance, n'est-ce pas ce qui fait de l'humain un humain ? La connaissance, oui, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas d'une absorption passive de discours fermés, d'un professeur autoritaire, dont la pensée se présenterait comme une vérité unique. La vérité, écrit le rabbin Edouard Feinstein, n'est jamais reçue passivement. Le sens ne se révèle que lorsque le lecteur s'engage dans le texte comme un partenaire actif de la construction de sa signification. Le mode de pensée talmudique est en effet le mode de la contradiction. Il faut dire et contredire. D'un autre côté, certains disent « Ne pourrait-on pas penser que ?» Toutes ces expressions de contradiction sont la trame de l'esprit talmudique. Les idées sont tordues dans un sens puis dans un autre, comme un linge essoré qui n'a pas donné ses dernières gouttes, fait sortir ses larmes dissimulées, sa rosée enfouie, son sucre régénérateur. Tourne et retourne le texte, dit Ben Bagbag, car tout s'y trouve, on le relit, on le réinterprète sans cesse et à chaque génération. Et la question, Kushia, à la base du raisonnement, est l'essence de cette rutspa, de ce toupet. La question est la capacité immense de s'introduire dans la pensée de l'autre et de s'y faire une place aussi. J'insinue et je m'insinue, ouvrant une brèche, apportant la lumière de mon âme, immanquablement différente de celle de l'autre, professeur ou élève, lumière légitime et justifiée, parce qu'elle aussi provient d'un être créé à l'image de Dieu. Cela ne signifie pas que tout se vaut et que toutes les idées sont bonnes. Cela signifie que la remise en cause et le questionnement sont par principe toujours bienvenus. Une pensée, pour ne pas être tyrannique ou totalitaire, doit s'ouvrir, se frotter à l'autre qui la remet en cause, avec bienveillance, avec un immense respect pour celui ou celle qui enseigne, mais aussi pour celui ou celle qui apprend. Et celui qui ne s'est pas encore questionné, le quatrième enfant du récit du soir de Pâques, de Pessah, on lui apprend à questionner, on l'incite à poser une question. À l'inverse, l'Égypte est le lieu d'absence de questions. On y courbe l'échine, même si l'ordre est absurde. C'est précisément pour cette raison que lorsque l'on fuit l'Égypte, on ne fuit pas les questions. On les accueille, on les suscite même. Rachi, commentateur du XIe siècle à Troyes, en France, en Champagne, dit que le texte nous appelle « d'Archénie », dit le verset, « interprète-moi ». Prête ton souffle à la lettre pour la rendre vivante, comme Dieu a insufflé en toi ton âme, ta respiration. Face à la question posée par l'enfant, pas d'évitement donc. On tente de répondre. Quand ton enfant te demandera, dit le texte de l'Exode, tu diras, tu raconteras, nous dit la Torah. L'enfant est le symbole de la fragilité, de celui vers lequel on se penche pour écouter sa question. La Torah nous enjoint d'être attentifs à cette parole de la fragilité, de ceux qui ne sont pas considérés. Celle-là est plus importante que celle des puissants et des donneurs d'ordre, parce que c'est celle que l'on n'entend pas dans une société bruyante, ivre d'efficacité et de déférence à ceux qui sont proches de l'Olympe. La question de l'enfant. Il ne faut pas la rejeter par un « c'est comme cela ». Il faut prendre le temps d'expliquer, d'apprendre et d'enseigner, et ainsi grandir et faire grandir dans son humanité. L'enfant, le plus faible souvent d'une société, celui qui n'est pas actif et ne produit pas, la veuve ou l'étranger, l'indigent, tous ceux qui sont au banc de la société, les oubliés sont placés au centre, deviennent la préoccupation de tous. La question nous rend égaux, en quête du savoir, la main tendue vers l'arbre de la connaissance. Je me souviens de la parole d'humour du grand rabbin de France, Chaim Korshia. Nous, les Juifs, nous avons toujours eu des problèmes avec les pyramides. La pyramide se maintient en effet parce qu'en bas d'une hiérarchie, on exécute les ordres sans poser de questions. Cela est impossible dans la pensée juive. Museler les questions, c'est priver de liberté et réduire en esclavage. Dans la question se niche un vent de désobéissance, de chutzpah, que nous saluons comme un parfum de liberté. Adam est partenaire de la création et a accès à la connaissance. Sa nature humaine se forge dans la désobéissance. Mais que dire de Moïse, le héros du peuple hébreu? Lui aussi vient au monde grâce à la désobéissance des sages-femmes. Ces femmes, sages de la sagesse, de l'éthique, qui risquent leur vie pour la vie, qui, lorsque le système leur impose un acte inique et sanguinaire, savent opposer un non à la tyrannie face à l'ordre de mort du Pharaon. Ainsi, depuis, les sages-femmes, littéralement celles qui donnent naissance, personne ne peut dire « j'ai reçu un ordre et je l'ai exécuté », que lorsque j'ai obéi, je me déresponsabilise, ce qu'avait dit Adam aussi, « ce n'est pas moi, c'est l'autre », ou des tortionnaires pour leur défense, « je n'ai fait qu'obéir à des ordres ». Cette phrase assassine qui abdique toute responsabilité. Là où il n'y a pas d'humain, efforce-toi d'en être un, disait Hillel. Cela signifie que dans une chaîne d'obéissance, le sujet ne doit jamais disparaître. Le jeu ne doit jamais se dissoudre dans un nous en devenant le simple rouage d'une mécanique qui le dépasse. Être humain, au plein sens du terme, c'est maintenir sans cesse en éveil l'éventualité de la désobéissance, cette capacité de dire non face à un ordre mortifère ou inique. En cela, la désobéissance est le gardien et le garant de l'éthique et de la responsabilité. Mais après l'Éden et la sortie d'Égypte, on pourrait opposer l'épisode de la ligature d'Isaac, qui serait une louange à l'obéissance. Une fois encore, la lecture qu'en font les rabbins est audacieuse. Le seul texte qui pourrait contenir une idée de soumission totale à la volonté divine, une suspension téléologique de l'éthique, comme le disait Kierkegaard, est totalement revisité. Dieu demande à Abraham un presque sacrifice de son fils, nous dit la Torah. Déjà, à Sodome et Gomorre, Abraham avait discuté de la décision divine de détruire ces deux villes, rappelant à Dieu qu'il se devait d'observer une justice que lui-même avait instaurée, un peu comme un élève qui rappellerait à son professeur la loi qu'il avait lui-même édictée. Et cette chutzpa, qui a séduit les rabbins, il l'applique à l'épisode de la ligature dans le Midrash, le commentaire rabbinique. Au moment où Dieu envoie un ange pour arrêter la main d'Abraham qui tient le couteau au-dessus de la gorge de son fils, Abraham, dit le Midrash, refuse d'écouter l'ange. Il dit à Dieu, « C'est toi qui m'as donné cet ordre de sacrifier mon fils, c'est toi qui dois te dédire. » En d'autres termes, ne demande pas un subalterne de faire ton travail à ta place. Dieu, forcé par Abraham, entre en scène. Puis Abraham parle à Dieu ainsi, « Ne m'as-tu pas promis que mes descendants seraient aussi nombreux que les étoiles ?»« Oui, répond Dieu, j'ai promis cela. » Et ses descendants, reprend Isaac, seront-ils les miens seulement ou aussi ceux d'Isaac ? Aussi ceux d'Isaac, répond Dieu. Abraham poursuit, j'aurais pu te montrer avant tes contradictions, mais je me suis tue, j'ai contenu mon chagrin. Je veux que tu me promettes maintenant quelque chose. Lorsque dans l'avenir, mes enfants et les enfants de mes enfants à travers les générations transgresseront ta loi et ta volonté, tu ne diras rien non plus et tu leur pardonneras. Ainsi soit-il, dit Dieu, qu'ils racontent cette histoire et ils seront pardonnés. Quel midrash sidérant! Non seulement Abraham convoque Dieu et renverse le rapport de force, mais il démontre à Dieu ses contradictions. Il apparaît comme plus sage que Dieu. Il poursuit, lui faisant un chantage, et le contenu de ce chantage est « Puisque tu es incohérent, tu dois pardonner l'incohérence de tes enfants. Accepte qu'ils te désobéissent. Je t'ai pardonné, tu dois nous pardonner. » Ainsi, chaque juif relatant la mise en difficulté de Dieu par Abraham sera pardonné. Le Midrash transforme cet épisode non pas en éloge de la soumission, mais en louange de la désobéissance. La chutzpa, le toupet d'Abraham, sera transmis de génération en génération et l'on devra retenir que le principe d'autorité cède sa place devant celui de justice. Mais dès lors que l'on célèbre la chutzpa, le toupet, cela signifie-t-il qu'il faut faire fi de tout ordre et d'obéissance? Certes non. Le judaïsme se structure autour de la notion de loi, halakha, et d'ordre sédère. Mais c'est la sagesse et la connaissance qui sont les critères ultimes de décision. La dignité de tous, la recherche d'une éthique infinie à laquelle toute autorité humaine ou divine doit se soumettre. Notre motivation doit être la construction d'un monde meilleur et non la recherche du pouvoir. Si, comme nous l'avons vu, Dieu est capable de laisser la place pour partager son pouvoir de création, c'est que nous pouvons tous le faire. En faisant de nous des partenaires de la création au jardin d'Éden, en sortant continuellement d'Égypte, tout en nous donnant la possibilité de toujours répondre non au pouvoir tyrannique, et enfin, en célébrant la désobéissance d'Abraham, le judaïsme fait de la chutzpa, de cette audace infinie, la pierre angulaire de notre humanité, celle qui fait que l'être humain est une question permanente posée à Dieu et aux autres êtres humains. Le rideau se refermait sur la représentation des scouts, le groupe les plus âgés des enfants de la colonie juive libérale. Voilà que pour la dernière représentation, ils avaient choisi de faire une improvisation. Il fallait remplacer le professeur de théâtre qui était vraiment, selon eux, trop incompétent. Ils avaient osé. Eze chutzpa, quel toupet! Jusqu'à ce que l'on apprenne que l'idée venait du professeur lui-même, qui la leur avait suggéré et riait sous cape. Au fond, peut-être que la vie est comme une scène de théâtre, et nous les acteurs improvisons. Nous nous plaignons sans cesse et nous reprenons le scénario en main. Nous faisons sortir Dieu de la scène. Il tombe des planches et devient spectateur, une nouvelle version du jardin d'Éden. Dieu fait semblant d'être offusqué, alors que c'est lui qui l'avait suggéré. Et Dieu dit, « Eze chutzpa, quel toupet !» avec un sourire de fierté et de joie qui se dessine à la commissure des lèvres divines qu'il n'a pas, devenues les ourlets du rideau autour d'une nouvelle scène de désobéissance.
C'est le moment des annonces. Excusez-moi, merci beaucoup. Voilà. C'est un peu difficile, même. C'était tellement fort que c'est un peu difficile de trouver les mots. Voilà. Donc, c'est le moment des annonces. Je crois que oui, Brigitte et Isabelle. Où est-ce qu'elle est, Isabelle ? D'accord.
Oui, juste pour vous annoncer que j'ai encore des textes des conférences au prix de 10 euros. Donc, vous pouvez, si vous ne les avez pas encore, venir me voir à la fin du culte. Merci.
Merci mille fois, c'était juste incroyable. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Alors, moi je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir ici Héloïse. Héloïse, qui est là-bas, et qui est celle qui a fait le site internet du Foyer de l'âme. Donc je crois que vraiment, on peut la remercier. Elle y a passé tout son cœur, avec tout son cœur, des heures et des heures de travail pour nous offrir ce site qui est ouvert depuis bientôt un an et qui est vraiment un magnifique outil de communication. Merci Héloïse et Jean-Pierre, son père, tous les deux à l'origine de cette histoire.
Alors, il y a quand même quelques autres annonces, beaucoup moins impressionnante, bien sûr. Là, c'est les vacances. Merci d'être venu et merci pour le rabbin d'être venu si nombreux aujourd'hui en ce premier dimanche de vacances scolaires. Demain, je fais l'ouverture. Je serai absente du 26 au 1er en vacances. Et je fais le culte dimanche prochain. Je voulais juste vous annoncer aussi, donc les activités sont un petit peu ralenties bien sûr, je voulais juste vous annoncer déjà ce que vous trouverez annoncé dans l'amitié qui va arriver cette semaine, pour dimanche prochain. Le concert du samedi 9 mars, il vaut mieux être là à 19h30, même si le concert a lieu à 20h. C'est un concert de musique juive ashkénaze avec orgue et chœur, donné par le cantor Samuel Lison, qui est cantor, entre autres, de la communauté que le temple accueille, qui se réunit ici à l'occasion de Kippour. Et donc, c'est un cantor qu'on a eu l'occasion d'entendre et qui a proposé, et nous avons été très heureux d'accepter, qui a proposé de faire un concert ici et qui va le faire avec notre organiste Frédéric Rivoal et la chorale Le Cœur Aleph. C'est un concert, ça promet d'être très très beau, j'ai entendu un CD. Voilà. Et donc c'est un concert, en plus l'entrée est libre et bien sûr si on peut participer aux frais après c'est tant mieux, mais c'est pas une condition, en tout cas pas une condition pour ne pas venir si vous avez des difficultés. Donc je répète, ce sera le samedi 9 mars, le concert lui-même sera à 20h. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? La croix est en réparation. Merci Vincent. Il m'a dit qu'elle était sous presse. Alors, ce n'est pas un journal, mais elle est quand même sous presse. Elle commençait à être très, très abîmée. C'est le joyeux, très joyeux moment de l'offrande qui s'avère extrêmement nécessaire, comme vous le savez. Merci Seigneur de nous permettre de donner. Amen. Nous allons prendre le cantique 272 et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Thank you.
Unissons-nous dans la prière fraternelle. Éternel notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour conclure cet instant de culte, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de savoir que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie. Donne-nous de porter dans nos cœurs, ensemble et individuellement, et ensemble, ta lumière et ta chaleur. Donne-nous à chaque étape les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne, dans les difficultés et les épreuves de la vie. Apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les humains que nous te demandons d'être présents. Ne permets pas que les difficultés politiques les entraînent dans la peur, le repli identitaire et le rejet de l'autre. Si hasardeuse est la marche, Seigneur, ne permets pas que nous nous égarions. Sois toi-même notre force. Encourage-nous de ta lumière et de ta joie. Si solitaire est notre course dans la nuit, ô Dieu, mets cette lumière en nos cœurs. Ouvre-les à l'amour fraternel. Sois toi-même notre frère. Et puisque tu allumes toi-même en nous la flamme de l'espérance, viens combler notre vie. Et pour les siècles des siècles, nous vivrons avec toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Et nous chanterons ensuite dans le cantique 264, donc on peut le préparer, le cantique 264, les strophes affichées, c'est-à-dire 1, 4 et 5. Dieu nous bénit, il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des hommes, afin que nous luttions pour la justice, la liberté, la paix. Dieu nous bénit. Il nous donne ses larmes devant les souffrances de nos frères et sœurs, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions tendre la main. Dieu nous bénit. Il nous donne de le louer dans la joie et le chant, afin que nous soyons le sel et la lumière du monde. Dieu nous bénit, lui qui crée, qui renouvelle et sanctifie, aujourd'hui et toujours. Amen. Et selon notre coutume, nous nous rasseyons pour écouter l'orgue.